Nous avons le meilleur de l'homme et de la machine, les réflexes les plus rapides produits par les technologies modernes.
And a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure.
J'ai la joie immense de vous présenter Robocop.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen. Et ce soir dans Ping Pong, de la déviance, de la violence, du sexe et de la philosophie, avec le cinéaste qui a subverti Hollywood et transformé ce bois sacré en buisson ardent.
Ping Pong. You like playing games. La culture sans limite.
Have you ever fucked on cocaine, Nick?
Ping Pong.
Nice. Ce soir, un ping-pong par-delà le bien et le mal, avec un maître de la philosophie grand spectacle, le cinéaste Paul Verhoeven. Il croisera et décroisera les jambes sous la table de ping-pong, en compagnie du tout nouveau patron de la Cinémathèque française, Frédéric Bonneau, pour la 4e édition du Festival international du film restauré, car c'est Verhoeven, pirate hollandais, qui, oui, a su subvertir la grande machine hollywoodienne qui en est l'invité d'honneur. À la bonne heure.
Ah, laissez-moi vous allécher.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen.
Enchanté de vous connaître.
Enchanté, moi aussi.
Entrez, c'est par ici.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Tenez, asseyez-vous, faites comme chez vous.
Merci.
De Robocop, il dit que c'est un personnage tragique, une sorte de Pinocchio. Avec lui, toujours il faut voir, derrière les tubes cinématographiques, les visées plus existentielles. Il a su qu'il voulait faire du cinéma à 7 ans, lorsqu'il a trouvé un ruban de photogrammes par terre et aimé, dit-il, le mystère de ces images fixes qui reconstituaient le monde en mouvement. Il a 7 ans et c'est le débarquement des Canadiens en Hollande, le débarquement du cinéma américain dans sa vie. À base de 3 ou 4 films par semaine, bang bang, shoot shoot.
En 1985, son père vient le trouver avec une petite annonce. Un job de prof de maths en lui disant « C'est un mi-temps, du coup ça te laisse le temps pour ton hobby ». À cette date, il a déjà réalisé 6 longs métrages et quelques semaines plus tard, il part à Hollywood où il tourne « La chair et le sang », un chef-d'œuvre baroque, épique et bubonique dans l'Italie à feu et à sang après la guerre de 100 ans. Puis, son sens de l'ironie mordante jusqu'à l'os et qui applique à la lettre la commande hollywoodienne se déploie dans un futur paranoïaque, féroce et décadent avec Robocop, son Jésus américain armé jusqu'aux dents, et puis avec Total Recall, film massu à l'intelligence qui n'a rien d'artificiel et qui fait un carnage au box-office. Il invite ensuite Sharon Stone à faire des ciseaux avec ses jambes nues dans les locaux de la police de San Francisco dans Basic Instinct qui fait monter le feu aux joues et descendre des sueurs froides comme un pic à glace dans le dos de toute une génération.
À Hollywood, on n'aimera pas tellement le miroir grimaçant de Showgirls, aujourd'hui largement réévalué par la critique. Le temps de renvoyer les faucons à leur fantasme guerrier dans Starship Troopers, et Verhoeven ferme 17 ans de subversion et de parenthèse hollywoodienne par Hollow Man, l'homme sans ombre, le film qu'il aime le moins. Retour au pays, à la haie désormais, et c'est le tournage de Black Book, son film le plus personnel.
Et le Hollandais violent, enfant prodigue revenu sur le vieux continent, est aujourd'hui à la fête, à la Cinémathèque, nouvellement dirigée par un homme qui a fait ses premières armes il y a 20 ans, et se comparait alors à un moinillon arrivant à Rome. Devenu pape de la cinéphilie à la française, ce dernier a quelque chose du Saint-Martin vénéré par les mercenaires de la chair et le sang de Verhoeven, un saint avec une épée. Et il accueille donc le brutal Batave dans le cadre du festival Toute la mémoire du monde, de demain jusqu'à dimanche, à la Cinémathèque donc, et dans 5 cinémas d'art et essai à Paris, pour une rétrospective, une carte blanche, une masterclass et une nuit qui promet d'être brûlante. Bonsoir Paul Verhoeven et Frédéric Bonneau.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bienvenue chez Ricole.
Doug, Bob McLean, enchanté de vous connaître. Rafraîchissez-moi la mémoire.
You were interested in a memory of
Mars.
Ah oui, Mars.
Il y a un problème? Mais franchement, ça a l'air vrai.
Aussi vrai que n'importe lequel de vos souvenirs.
Come on, don't bullshit me.
No, I'm telling you, Doug, your brain will not know the difference. And that's guaranteed, or your money back.
Et le mec que vous avez lobotomisé, il a été remboursé.
It's your first trip?
Mm-hmm.
Well, don't worry, things hardly ever fuck up around here.
1989, Total Recall en français, Voyage au centre de la mémoire. C'est avec Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone que vous découvrez, Paul Verhoeven. C'est adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick. Le rouge martien y est absolument abrasif. Et là-bas, on cherche à extraire des minerais de turbinium. Vous avez donc ce personnage d'Arnold Schwarzenegger qui va aller chez Total Recall pour se faire implanter un souvenir de Mars, car il rêve inlassablement de Mars. Quel souvenir avez-vous, Paul Verhoeven, et puisque c'est le festival Toute la mémoire du monde, de ce Total Recall ou peut-être de son déclin?
Well, what I remember of Total Recall was most importantly that we were
ce dont je me souviens de Total Recall, c'est tout d'abord que nous filmions au Mexique.
And that was not a very happy experience.
Et ce n'était pas une expérience très heureuse.
So
donc,
il
y avait toujours 15% de l'équipe qui était malade. C'est ce qu'on appelle la maladie de Montezuma. La malédiction de Montezuma sur les blancs qui tuait tout le monde là à l'époque.
Ah oui. So that was really what comes to my mind immediately.
C'est ce qui me vient à l'esprit immédiatement.
Always people laying in the
on avait toujours des gens qui étaient voilà allongés, qui étaient en train de vomir leurs tripes, tout ça.
I was continuously a little bit sick.
Moi aussi j'étais malade de façon quasiment continue.
And the most interesting thing
la chose la plus intéressante, c'était que Arnold Schwarzenegger, qui connaissait le Mexique d'autres films comme Red Sonja, avait sa propre nourriture qui était importée de Los Angeles, avec son propre cuistot qui faisait la tambouille à midi. Et la seule fois où Arnold est tombé malade, c'est lorsque le cuistot était malade et qu'il a dû manger avec nous. Mais pour le reste, il mangeait sa petite tambouille parce qu'il savait à quel point c'était dangereux cette nourriture mexicaine, parce qu'il y avait un problème avec l'eau. L'eau n'est pas propre. C'est pas comme ici. Hein. On peut pas en boire. On peut pas en boire à Lévis, au robinet. Et pour le reste, c'était une expérience très intéressante. Travailler avec Arnold Schwarzenegger, qui est devenu ensuite gouverneur de Californie, c'était vraiment un plaisir parce que Arnold est prêt à faire tout ce qu'on lui demande. Et s'il ne le fait pas bien, on peut lui dire non, ça ne marche pas, il faut recommencer. Il n'a pas d'ego et il le refera tout de suite. Donc, j'ai jamais vu un acteur qui apportait un tel soutien comme Arnold Schwarzenegger, qui est toujours, toujours à vos côtés. Et s'il y a un problème avec les producteurs, il allait voir les producteurs et il s'assurait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait faire. Il avait quelques petites menaces, voyez-vous. C'était très malin, il utilisait sa puissance, mais seulement lorsqu'on avait vraiment besoin.
Frédéric Bonneau, puisque nous sommes dans l'évocation de Total Recall de Paul Verhoeven, et puis qu'on est dans les vents toxiques, non seulement de Mars, mais aussi de toute la filmographie de Paul Verhoeven, j'aimerais savoir quel est votre premier souvenir, qu'il soit authentique ou implanté, de l'œuvre de Paul Verhoeven.
Ah ben non, il est authentique et il est inoubliable. C'est que j'ai vu La chair et le sang avec Rutger Hauer et Jennifer Jason Leigh à Paris, en salle, au moment de sa sortie.
1985.
Je n'avais pas vu les films hollandais de Paul Verhoeven, qui, je crois, n'avait pas été distribué en France à ce moment-là.
Mais c'est son premier film européen.
Voilà, on les a vus. Il y en avait un qui était distribué.
Des listes turques.
Ah voilà, Turkish Delight. Et j'ai vu ensuite Spetters, qui est peut-être le film que je préfère dans sa première période hollandaise, dans un cinéma qui existe toujours à Paris, qui s'appelle L'Escurial, et qui avait montré les boulevard de Port-Royal, et il y a dans le 13e, et qui avait montré les premiers films hollandais de Verhoeven. Et en fait, on a vite compris que c'était un ironiste. Et ça, c'est quelque chose de très rare au cinéma. C'est très rare les cinéastes qui sont des ironistes. En littérature, par exemple, on en connaît, le plus connu, c'est peut-être Swift, mettons. Eh ben, Verhoeven, c'est ça. C'est-à-dire que il y a de l'ironie à l'intérieur de son système. C'est ça qui est tellement fascinant chez lui. C'est que souvent, les cinéastes, quand ils veulent faire preuve comme ça d'ironie, prennent un peu de surplomb par rapport à leur personnage ou à leur film. Mais alors, ils ont l'air un peu trop malins par rapport à leur film et à leur personnage. Alors que ce qui est très fort chez chez Verhoeven, c'est qu'il est à l'intérieur des choses. Il est pas.
Il est toujours à hauteur d'homme et de femme.
Voilà, il est pas en surplomb comme s'il jugeait et s'il se moquait des gens, mais il est à l'intérieur du décor et à l'intérieur de l'histoire. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai été critique et parfois ça a provoqué des malentendus entre lui et la critique et entre lui et le public.
Il vous a fait des menaces comme Charles?
Non, pas du tout. Mais je me souviens que quand, par exemple, j'ai vu un film comme Showgirls, qui lui a plutôt été un échec public, je n'avais pas
critique aussi à l'époque.
Très critiqué. Moi, j'avais plutôt fait une critique négative du film, je l'avoue, cher Paul. Et donc, je n'avais pas compris que ce côté paillette et strass de Las Vegas, que je trouvais vulgaire et trop insistant et trop lourd. En fait, Paul Verhoeven s'était mis à l'intérieur du système et cassé le système de représentation de Vegas et du showbiz et disons du spectacle américain, mais de l'intérieur, comme quelqu'un qui est tapis.
Du grand sabotage.
Comme quelqu'un qui est tapis dans la machine.
Stephen, you stay right here with Father George.
Why?
Fighting is for fools.
La chair et le sang, précisément, avec cette musique martiale de Basile Poledouris, qui a accompagné sur de nombreux films Paul Verhoeven. On est en 1501, à la fin de la guerre de Cent Ans, en pleine épidémie de peste bubonique, et une bande de mercenaires se révolte contre son commanditaire, faute d'avoir été payé et laissé piller et violer comme prévu. Il se lance alors dans une sorte d'utopie communiste, dans la forteresse d'un château fort. La chair et le sang marche sur les brisées de votre série télévisée hollandaise et médiévale, Floris, Paul Verhoeven. Elle se situe à une époque entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Vous êtes un lecteur de l'automne du Moyen-Âge de Johann Huizinga, une époque, comme il l'a écrit, qui sent à la fois la rose et la merde, le pur et l'impur, le luxe et la fange. C'est un peu comme dans tout votre cinéma. Mais alors, à propos de cette chair et le sang qui a marqué, qui a exorbité les yeux de Frédéric Bonneau, quelle scène, à nouveau, quelle image, quel souvenir, pour vous, dans ce film, synthétise votre goût pour à la fois la décadence et la renaissance?
We are talking about
flesh and blood.
Flesh and blood, still.
On parle de la chair et du sang, n'est-ce pas?
That's quite a different movie than,
parce que c'est un film qui est plutôt différent des autres.
Because medieval warfare is a little bit
parce que la guerre médiévale est un petit peu différente de la Seconde Guerre mondiale.
One of the most beautiful images, basically, that are in the movie for me is the moment
film,
where,
pour moi, c'est le moment où
the young man, Burleson,
Burleson, le jeune homme Jennifer Jason Leigh sont assis dans une situation assez romantique avec deux cadavres surplombants qui pendent d'un arbre au-dessus d'eux.
Et
elle cherche quelque chose qui est caché par terre, c'est une racine magique. Elle la prend, elle la sort, et lui, il explique que cette racine provient du fait que lorsque l'on pend des hommes, il y a une éjaculation et l'éjaculat pénètre dans le sol. Et c'est ce qui crée cette racine. Cette racine est magique et lorsqu'on en mange, eh bien, vous serez amoureux pour toujours.
C'est la mandragore.
C'est
une toute petite histoire, mais c'est celle que je préfère.
Moi, je me souviens de la scène de la mandragore, bien sûr.
Il y a
une autre scène donc, que tous les amateurs du film dont se souviennent vraiment très très bien, c'est que quand Jennifer Jason Leigh est capturée, donc c'est une pucelle par cette bande de pillards, en fait, ils s'apprêtent tous à la violer. Et elle comprend très vite qu'il vaut mieux être violée par un seul, qui est le chef de la bande, qui est Rutger Hauer, plutôt qu'être violée par tous. Et ça, c'est typiquement une scène, on voit bien ce que ça peut provoquer, hein. C'est une scène dangereuse à faire pour un cinéaste, on peut se faire engueuler très fort. Et donc Jennifer Jason Leigh, son personnage, se retrouve à violer Rutger Hauer, c'est elle qui prend le dessus dans le combat sexuel, et elle lui fait comprendre qu'elle ne veut coucher qu'avec lui, et que maintenant, lui, chef de bande, doit empêcher tous ces autres hommes de la violer à leur tour. Et ça, c'est une scène absolument géniale, une scène sexuelle comme on en voyait peu dans le cinéma américain, et comme on continue à en voir très peu.
Oui, justement, le personnage de Jennifer Jason Leigh, il a donc ce côté non victimaire et cette femme qui prend le contrôle. On avait aussi, quand vous parliez de Splatterhouse en 1980, une première femme dévoratrice, une prédatrice sexuelle. Et puis, il y a dans la filmographie de Paul Verhoeven, finalement, uniquement des femmes fortes, des femmes à l'action. Il y a presque un malentendu sur qui est Paul Verhoeven par rapport à Showgirls ou à Basic Instinct. On s'est trompé un petit peu de chemin dans l'analyse. Notamment, c'est vrai, quand on repense dans Starship Troopers au personnage de Dudson Cross, c'est quand même incroyable. Elle pilote l'avion, elle a un copilote qui ne sert à rien, c'est elle qui décide quand elle veut du sexe, quand elle n'en veut pas, c'est elle qui quitte son petit ami. Est-ce que Paul Verhoeven, à votre avis, Frédéric Bonneau, c'était pas un grand cinéaste féministe encore ignoré?
Mais ça, si, sûrement. Et d'ailleurs, moi, le film de lui que je préfère et qui a été le film de son grand retour, c'est Black Book. Or, Black Book, c'est vraiment une héroïne sublime. Parce que elle ne se plaint jamais. Elle est capable de s'adapter à toutes les situations. Et à la fin, c'est elle qui gagne. Mais en devenant presque, quand il faut se rouler dans la fange pour survivre et pour finalement parvenir à ses fins, elle sait aussi le faire. Il y a cette scène incroyable dans Black Book où l'héroïne est littéralement plongée dans un torrent de merde et elle s'en sortira quand même et ça sera quand même elle l'héroïne. Donc les héroïnes de Verhoeven sont fascinantes à cause de ça, parce que il peut leur arriver des choses épouvantables comme il en arrivait aux hommes 10 ans avant, mais elles s'en sortent toujours. Elles s'en sortent toujours et c'est toujours elles qui finissent par mener le jeu, et comme vous le dites très bien, en refusant d'être des victimes.
Bon, à nous de jouer. Nous sommes la première vague de feu. Ça ne fait plus de parasites à tuer. Vous devrez arroser tout le secteur et anéantir tout ce qui aura plus de deux pattes, c'est compris?
Oui, sergent major!
Young people from all over the globe are joining up to fight for the future.
I'm doing my part.
I'm doing my part.
I'm doing my part.
I'm doing my part too.
Ils sont prêts à se battre. Et vous? Engagez-vous dans l'infanterie mobile et sauvez le monde. Service planétaire, citoyenneté garantie.
We break net now and take you live to Clendathu, where the invasion has begun.
Nous venons d'atterrir au centre de ce que les Starship Troopers surnomment Planète K. Je suis ici avec la 6e division d'infanterie et c'est une saleté de planète.
...1997, c'est Denise Richards, bien sûr, dans Starship Troopers. Et Paul Verhoeven, on parlait de ses héroïnes, donc Denise Richards qui est une des premières, je pense, héroïnes au cinéma à conduire un vaisseau spatial. C'est ça, c'est dès 1997 et que en 1997, grâce à vous, Paul Verhoeven. Mais ce film, Starship Troopers, il a aussi évidemment, avec ses messages de propagande qui sont présents régulièrement dans le film, ses parodies de messages de faucons de l'armée américaine, il y a forcément un rôle quand même parabolique, on va dire, par rapport à ce qui se passe à ce moment-là aux États-Unis, mais c'est Clinton qui est aux commandes. Comment est-ce que vous avez utilisé, on va dire, la parabole dans ce film pour mélanger, on va dire, les souvenirs de la guerre contemporaine et peut-être vos propres souvenirs de la guerre?
Well, the film is based on a science fiction book by Robert Heinlein.
Le film, c'est basé sur un bouquin de science-fiction de Robert Heinlein. C'est un bouquin très militariste, on peut même dire limite fasciste.
Et
quand John Davidson nous a demandé de faire ce film, qui était aussi le producteur de Robocop, on a commencé. Il a fallu se battre avec le bouquin parce qu'on ne voulait pas faire un film fasciste. Et donc la solution qu'on a trouvée, c'était de dire au public. De façon univoque, ouais, ce sont des héros. On les voit sans cesse faire des choses merveilleuses, ils gagnent, ils tuent. Mais en même temps,
ils disent
allons mourir.
Ça dit aussi dans les commentaires, the newsreels in between, that these people are completely over the top.
Aussi que ces gens sont complètement dingues.
Que
ces gens sont déjà en route vers le fascisme. C'est ça qu'il y a dans les petits commentaires, dans les petites infos qui passent. Et donc c'est une situation unique dans le film, c'est que ces héros, entre guillemets, d'une certaine manière, sont aussi dépeints comme fachos, comme des manipulateurs fascistes.
Et done that in a way by copying.
Je l'ai fait en copiant beaucoup d'images de films fascistes.
De Leni Riefenstahl.
Le triomphe de la volonté, par exemple, de Leni Riefenstahl.
C'était pas un hasard, ce patrouilleur allemand. C'était un piège. Il passe à l'action quand la liste est prête.
Quel genre de liste ?
Une liste de juifs fortunés. Ils leur promettent de les passer en Belgique, mais ils les achèvent.
Comment tu sais ça ?
Comment je le sais ? Mais parce que moi aussi, je suis tombée dans ce piège. Ma famille entière a été massacrée devant mes yeux.
Mais c'est qui, au juste, ce Van Rijn ?
Van Rijn fait croire qu'il est un résistant.
Zegt tegen ondergedoken joden dat ze kunnen vluchten, dat ze geld mee moeten nemen. Franken wacht ze op, moordt ze uit en berooft ze.
Tu Franken, tout simplement.
Oui, pour l'empêcher de continuer.
Désolé, mais je refuse. Schieten we Franken dood, dan gaan er 20, 30 gijzelaars tegen de muur.
Et si on tue pas ces bons 30 juifs qui sont tués, ce sera notre faute.
Et qui décide que la vie d'un juif a plus de valeur que celle d'un Hollandais? Je veux pas en discuter.
De Leni Riefenstahl. Nous sommes avec Rachel, alias Elise De Vries, dans Black Book. Donc, cette Rachel a intégré une bande de résistants hollandais après l'assassinat de toute sa famille par les nazis. On est dans votre retour aux Pays-Bas, Paul Verhoeven, le film de ce retour, Retour de l'enfant prodigue, pour reprendre le titre notamment d'un tableau de Jérôme Bosch qui vous est cher. Or, dans ce tableau, on voit un colporteur qui passe devant un bordel contre lequel pisse un ivrogne. Alors, je ne sais pas si c'était votre volonté en revenant filmer dans votre patrie, montrer le bordel qu'elle a été pendant la Seconde Guerre mondiale et dont vous avez été témoin, enfant. Et puis, à cet égard, j'aimerais que vous nous racontiez à nouveau un souvenir, une image de ce qui, dans ce film, pour vous, cristallise toutes ces ambiguïtés, tous ces clairs-obscurs, toutes ces contradictions de la Hollande pendant la Seconde Guerre mondiale.
Well, but that, it is not so really perhaps an image that I have in mind.
C'est probablement pas une image que j'ai en tête. Mais l'extrait que l'on vient d'entendre, ça déclare quelque chose de précis, que même au sein de la résistance, il y avait, on disait des choses très antisémites. Et cette scène est très très claire à ce sujet. Bien sûr, quand je lis sur la résistance française, ça n'a pas l'air très différent. Je peux vous le dire, hein, parce que moi j'ai lu les bouquins.
Bien sûr, there was a very right-wing anti-Jewish.
Des groupes d'extrême droite très anti-juifs dans la résistance française, je suis désolé d'avoir à le dire, mais ça se trouve dans tous les bouquins.
Mais vous, vous vouliez faire la peau,
hein.
Et ça, c'était intéressant de le montrer, que même du côté des héros, du côté de la résistance dans le film, parce que dans le film, les héros, c'est les résistants, mais même là, il y avait une façon antisémite de voir la vie.
Mais donc la vraie héroïne, c'est Rachel, qui est comme vous, sans patrie ?
No, she's Dutch.
Non, non, elle est néerlandaise. Hein.
Elle est Dutch, yeah. You mean in reality, if she's
dans
Dutch
la réalité,
or not ?
Est-ce qu'elle est hollandaise
chose
ou pas ?
Elle est juive, donc il est difficile de se retrouver parmi tous les Hollandais, même les résistants. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose comme ça aussi ?
After the experiences of the war,
seulement après l'expérience de la guerre, oui. On peut le voir dans les premières scènes du film. On peut voir qu'elle se cache et on la cache dans une pièce. Mais elle ne peut recevoir de nourriture que si elle cite la Bible. C'est intéressant parce qu'elle est juive, donc elle est contrainte de devenir chrétienne pour pouvoir être nourrie. Et ça, c'est une des images que j'aime. Parce que, voilà, elle cite une page de l'Évangile selon Saint Jean, et puis voilà, elle trace avec le sirop. Elle fait une croix sur les cornflakes, et puis voilà. Et celui qui donne la nourriture, il fait comme ça. Puis juste après, paf, elle mélange tout. J'ai pensé que c'était une image très intéressante de l'aide des Hollandais envers les Juifs, qui à l'époque, en fait, n'était pas si extraordinaire.
Alors peut-être que vous vous apprêtez à préciser des choses aussi sur l'histoire française. Vous allez donc sortir votre premier film tourné en France à l'automne. Hein. Ce sera entre autres avec Isabelle Huppert. Vous avez écrit Jésus de Nazareth, Paul Verhoeven. Je sais que vous avez une adaptation de la vie de Jésus à votre manière en tête depuis un certain nombre d'années. Pourquoi et où est-ce que ça en est ?
Pourquoi j'ai fait ça ?
Oui.
Je voulais when I came to the United States.
Quand je suis arrivé aux États-Unis,
I wanted to make a movie about Jesus.
Je voulais faire un film sur Jésus.
And basically then I started to follow.
Et j'ai commencé à suivre un séminaire qui s'appelle le séminaire de Jésus, the Jesus Seminar. Et des gens étudiaient la Bible pour savoir ce qui était de la réalité, ce qui ne l'était pas.
I studied there for 10 years.
J'ai étudié là-bas pendant 10-15 ans. Pour savoir exactement ce qui était réalité et ce qui n'était pas. Enfin, évidemment, ce que les gens pensent que c'est la réalité et ce qu'ils pensent que ce ne l'est pas. Personne ne le sait à 100%. Mais le livre représente pour moi plus ou moins ce que je pense qu'il a pu se passer il y a 2000 ans. C'est la vision de quelqu'un qui n'est pas véritablement un chrétien, qui n'est même pas du tout, mais qui l'a étudié de très près. Donc je crois que ce que j'ai écrit, c'est ma vérité.
Et
Jésus, là, c'est un être humain. Ça réduit Jésus à son humanité. Pas de divinité là-dedans. C'est une personne, un individu.
Votre Jésus de Nazareth, Paul Verhoeven, il est édité aux Forges de Vulcain.
Des études fédérales sont en cours dans votre communauté. Voulez-vous en savoir plus ? 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui croit en l'homme.
Et si vous voulez en savoir plus, vous restez avec nous dans Ping Pong et nos invités Paul Verhoeven et Frédéric Bonneau. On parlera entre autres de Fellini et de Bergman.
Mais tout de suite, eh bien, il est l'heure de retrouver Émilie Chaudet pour son journal de la culture. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde.
Bonsoir Émilie.
Et bonsoir à tous.
Ce soir, Émilie, on se penche avec vous sur une réforme tout aussi compliquée qu'inquiétante. On se croirait dans un synopsis de Verhoeven.
Je sais.
Mais c'est pour l'avenir, non pas des champs de bataille, mais des musées en Italie.
Oui, en fait, c'est une réforme qui est en cours depuis quasiment un an et qui concernait jusqu'à présent 20 des plus grands musées italiens. Alors déjà, première étape de la réforme, il y a un an, le ministère de la Culture, Dario Franceschini, a lancé un appel à candidature internationale pour recruter des nouveaux directeurs de musées, comme pour le Borghese de Rome, les offices de Florence, le Capodimonte de Naples, qui est d'ailleurs ce musée dirigé maintenant depuis août dernier par un Français, Sylvain Bélanger. Alors sur cette petite annonce du ministère, il était précisé que les candidats souhaités devaient savoir protéger et mettre en valeur le patrimoine. Alors derrière ces formules un peu sibyllines, en fait ce que le gouvernement recherchait, c'était des directeurs capables aussi d'assurer le financement de ces musées et de mener des campagnes de levée de fonds privés. Alors depuis l'été dernier, sur les 20 directeurs choisis, 7 sont étrangers, canadiens, français ou allemands. Et encore aujourd'hui, beaucoup d'anciens directeurs de musée reste mobilisé contre cette réforme qu'il qualifie d'idéologique. C'est le cas d'Antonio Natali, l'ancien directeur du musée des offices de Florence, remplacé depuis l'été dernier par l'allemand Heike Schmidt. Et pour lui, aujourd'hui, les musées italiens sont avant tout considérés par le gouvernement comme des lieux de comptabilité.
Un musée, ça ne peut pas se reposer sur des chiffres. Combien de personnes y sont entrées aujourd'hui? Combien de personnes de plus que l'année précédente? Ou alors, combien de salles peuvent être visitées? Non, un musée, ça doit rester un lieu de formation, tout comme une école ou un hôpital. Ça doit rester un service social. Du moins, c'est comme ça que je le conçois. Un service citoyen qui doit aider à la formation d'une conscience historique.
Et aujourd'hui, Émilie, cette réforme s'étend à 10 autres musées italiens.
Oui, il y aura à nouveau une procédure de sélection pour 10 autres musées, parmi lesquels le musée d'archéologie de Florence, le musée national romain, le site d'Herculanum à Pompéi, etc. Et ça, c'est ce que le ministre de la Culture, donc Dario Franceschini, a dévoilé il y a 2 semaines, à savoir le second volet de sa réforme, en annonçant également plus d'autonomie pour ces structures, à savoir une plus grande responsabilité de financement, ce qui crée un décalage entre les grands et les plus petites structures de musées italiennes. Une réforme dont les professionnels de la culture italiens ne comprennent pas encore le bénéfice, comme l'explique Maya Gattan. Elle est directrice des programmes de l'Institut Lorenzo di Medici à Florence et professeure de muséologie.
Il y aura plus d'autonomie. La question, c'est comment ces petits musées vont pouvoir s'adapter en interne. Parce que eux, ils vont être sous la coupe d'un seul directeur qui lui-même est à la tête d'un grand pôle régional. Par exemple, en Toscane, là où je vis, c'est Stefano Casciu qui se retrouve à la tête de plein de petites structures. Et il va devoir réfléchir à leur financement et les trouver. En fait, ce n'est clair pour personne. Et nous n'avons pas encore vu comment tout cela pouvait se passer.
Et l'incompréhension pour le moment ne s'arrête pas là, car l'Italie compte aussi un bon nombre de sites archéologiques, une dizaine environ. Et là encore, il y a des subtilités de traitement qui risquent de nuire à leur fonctionnement, comme nous le précise la professeure Maya Gattan.
Les musées vont être gérés par un pôle régional, alors que les sites archéologiques seront gérés par les superintendances. Et il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Beaucoup d'archéologues sont un peu perturbés, tout comme les gens qui travaillent au sein de ces superintendances. Ils vont devoir apprendre à gérer ces sites avec des outils et un savoir-faire qu'ils n'ont pas. Et ce, quelle que soit leur place future, au musée ou au sein d'intendances territoriales.
Une réforme donc qui veut alléger son administration au niveau national, mais qui se poursuit tout de même difficilement sa route en Italie, dans la défiance de la plupart des professionnels du secteur et des acteurs culturels du pays. Il y a encore quelques mois, l'écrivain et critique d'art Vittorio Sgarbo a dénoncé une erreur grave dans les pages de la Repubblica, et le sénateur Gianluca Buonanno a reproché au Premier ministre Matteo Renzi de discréditer le professionnalisme des Italiens avec une telle réforme. Alors, en tout cas, les directeurs italiens de musées toujours en place ne prennent pas forcément facilement la parole sur le sujet, et on les comprend parce que leur place est plus que jamais aujourd'hui fragilisée, mais ils reconnaissent quand même à demi-mot la nécessité d'une réforme pour la survie des musées. Elle aurait dû se faire, en tout cas, selon les mots de Maya Gattan, de manière plus graduelle.
Tout de suite, on passe au bref, Émilie, avec un maître du grand spectacle féministe, lui aussi à sa manière, comme notre invité Paul Verhoeven, le réalisateur de Mad Max, qui présidera le jury du Festival de Cannes.
Oui, la nouvelle est tombée ce matin, c'est donc George Miller qui sera à la tête du jury du 69e Festival de Cannes. Le cinéaste de 70 ans était déjà venu deux fois à Cannes comme membre du jury, et il est le premier Australien à le présider, ce jury.
Adele dénonce l'utilisation d'une de ses chansons par Donald Trump.
La chanteuse britannique reproche notamment au candidat républicain à la Maison-Blanche d'avoir utilisé l'un de ses titres, Hello, dont le clip avait été visionné des millions de fois sur Internet, réalisé par Xavier Dolan. Et là, pour le moment, juste fait savoir par voie de communiqué, Donald Trump a juste répondu qu'il admirait la chanteuse et qu'il avait déjà utilisé le titre Rolling in the Deep pour l'un de ses précédents meetings.
Et enfin, Lady Gaga signera un hommage à David Bowie, et ce n'était pas encore repris par Donald Trump.
Non, mais on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, la chanteuse a annoncé qu'elle offrirait au chanteur, je cite, un testament multisensoriel au talent artistique de l'icône David Bowie, donc qui est décédé le 10 janvier dernier d'un cancer à l'âge de 69 ans.
Il n'est pas là pour refuser, quoi.
Non.
Merci Émilie, on vous retrouve pour un disque du jour forcément multisensoriel à 19h50.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Marcello!
Steiner!
Mi pareva di averti visto entrare. Come stai?
Qu'est-ce que tu fais ici?
Et toi? Je suis content de te voir.
Tu travailles à ton livre?
Ah oui, il avance. Je suis en train de corriger la version définitive. Dès que je l'aurai terminé, je te mettrai à contribution. Il y aura la corvée de le lire. Et toi?
J'ai lu il n'y a pas très longtemps un article de toi qui était très bien.
Vi ho ritrovato il meglio di te. Per le qualità che ti ostini a nascondere e che malgrado tutto ti appartengono.
Mamma, credo proprio di non saper scrivere.
La Dolce Vita, le film fétiche de Paul Verhoeven, et un film qu'on va retrouver présenté dans le cadre du festival Toute la mémoire du monde à la Cinémathèque, dans le cadre de cette carte blanche donnée, accordée à Paul Verhoeven. On a choisi avec Thomas Beau, réalisateur de Ping Pong, qui nous mitonne comme ça des extraits bilingues depuis le début de l'émission, un extrait où Marcello, le chroniqueur mondain, rencontre dans une église son vieux mentor Steiner, et il ment sur son incapacité à terminer son livre. J'ai eu l'audace, la faiblesse de penser, Paul Verhoeven, que dans le personnage de Marcello, dans la Dolce Vita, il y a peut-être l'un de vos reflets. Vous, l'auteur européen qui a vécu la Dolce Vita d'un réalisateur de blockbuster, mais qu'est-ce qu'il y a de félinien pour vous dans votre cinéma ?
Well, there is not so much as to the thematic material or.
Pas tellement sur le matériel cinématographique. J'ai étudié sa façon de faire bouger la caméra.
And that was that's as well in Dolce Vita as in 8 and a half.
Dans la Dolce Vita et dans 8 et demi. De plus, je dirais que Dolce Vita est un des meilleurs films qui ait jamais été réalisé. Tout concorde, la BO est superbe, les acteurs sont merveilleux, le scénario est bon. Je crois que c'est une des plus belles scènes que j'ai jamais vues entre un père et un fils. C'est Marcello Mastroianni quand il est à Rome et que son père arrive. Ils vont dans une boîte ensemble un soir. Et le père regarde et vraiment il apprécie beaucoup une des danseuses. C'est une scène qui est assez longue, mais je crois que c'est une des scènes les plus belles que l'on voit. Même si on la voit des années plus tard, ça a encore cette puissance énorme, cette beauté, cette mélancolie. Ce qui était vraiment présent dans l'œuvre de Fellini à l'époque. Et plus tard, bon, il est allé dans une autre direction, j'ai pas pu suivre là. Mais la Dolce Vita de Fellini, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le travail cinématographique en général.
C'est vrai que c'est numéro un dans votre liste des films préférés, Paul Verhoeven. Frédéric Bonneau, vous êtes le tout nouveau patron de la Cinémathèque française. Vous avez pris vos fonctions donc le 1er février.
Hier.
Voilà, c'était hier. Et quelle est la place, pour le coup, dans votre Cinémathèque, à vous, de Fellini?
Ah ben Fellini, moi j'aime beaucoup la Dolce Vita, mais c'est une affaire compliquée parce qu'en fait en 1960 il faut quasiment choisir entre Fellini et la Dolce Vita d'un côté et Antonioni et la Ventura de l'autre.
Ça c'est pas difficile. Hein.
Et donc vous préférez Fellini. Alors voilà, c'est ça qui nous divise.
Et nous on aime les combats cinéphiles.
Voilà,
donc
c'est ça qui nous divise, Paul Verhoeven et moi. Au fond, je préfère Antonioni et je préfère la Ventura à la Dolce Vita.
Pourquoi?
C'est pas le même type de modernité. C'est-à-dire que je comprends très bien que Paul Verhoeven préfère Fellini parce que Fellini, il est plus avec ses personnages. C'est une critique plus interne sur des gens qui sont complètement perdus. Tandis que Antonioni, c'est vraiment un inventeur de forme qui lui invente un autre cinéma. Ceci dit, les deux films ont eu les mêmes ennuis, ont été sifflés à peu près par les mêmes personnes et pour les mêmes raisons. C'est que dans les deux cas, que ça soit Fellini ou Antonioni, exactement au même moment en Europe, en Italie, en 1960, il y a un personnage qui intervenait et ce personnage était normalement interdit au cinéma, aboli du cinéma, c'était le temps qui passe. C'est-à-dire que les gens qui détestent la Dolce Vita trouvent le film long et ennuyeux et les gens qui détestent la Ventura disent « il se passe rien, c'est insupportable ». Parce que tous les deux ont décidé que le temps, et c'était ça la modernité qu'il fallait faire absolument oublier aux spectateurs pendant une heure et demie ou deux heures de projection, tout d'un coup le temps devenait le personnage principal des films et c'est pour ça que ce sont deux films révolutionnaires. Mais c'est vrai que Paul Verhoeven a raison, c'est difficile d'aimer également les deux. Donc lui préfère Fellini, moi je préfère Antonioni.
L'aventure n'est pas mal. Hein.
Oui, l'aventure n'est pas mal, vous voyez quand même.
Mais c'est le seul qui n'est pas mal.
Voilà.
Je vais la vetskap. Inte tro, inte antagande, utan vetskap. Jag vill att Gud räcker mig sin hand, avtäcker sitt ansikte, talar till mig.
Men han tiger.
Jag ropar till honom i mörkret. Men ibland är det som det inte fanns någon där.
Det kanske inte finns någon där.
Men då är levandet en orimlig fasa. Ingen människa kan leva med döden för ögonen. Och vetskapen om alltings indighet.
De flesta människor reflekterar varken över döden eller indighet.
Men en dag står du ju ändå på livets yttersta näs och ser mot mörkret.
Ja, den dagen.
Jag förstår vad du menar.
Où est Dieu? Et quel est le sens de cette misérable vie qui est la nôtre? Nous sommes chez Ingmar Bergman dans le 7e Soul, l'un des films que vous avez choisi, hein, Paul Verhoeven, dans votre carte blanche à la Cinémathèque française. Il apparaît en version restaurée, il faut le préciser, parce que c'est un festival du film restauré. Qu'est-ce qui vous a plu? Il me semble que vous nous l'expliquez déjà un petit peu. En tout cas, c'est ce débat existentiel qui va se jouer entre le personnage du chevalier Bloch, qui va essayer, en jouant aux échecs contre la mort, peut-être de gagner, décide de tenter la providence. On a son valet cynique, Jones, et puis il y a ce couple de jongleurs, de comédiens qui vivent dans le présent et qui sont heureux. Et finalement, il ne faut imaginer les ténèbres qu'au dernier moment. C'était peut-être un petit peu ça la clé. Qu'est-ce qui vous a plu dans... déjà, quel a été le choc de ce film existentiel de Bergman pour vous, Paul Verhoeven, et aussi, en quoi il vous plaît par rapport à ce que la modernité peut fabriquer, pour le coup, aujourd'hui, comme image, que je crois que vous trouvez un petit peu vide de ces questions.
L'image
qui est extrêmement puissante, elle est tout à fait au début du film, avec cette musique, comme le Dies Irae.
And you see the sky, and you see
a dark
bird.
On voit un oiseau noir, probablement un faucon. On entend probablement les dernières réminiscences de l'Apocalypse, le dernier livre. Cette ouverture est tellement puissante, c'est que pendant quelques instants, probablement il n'y a rien d'autre dans le monde que ce que l'on voit. Rien de cela n'est vrai, bien entendu, parce que...
But at least the illusion
au moins, il y a une illusion qui est créée là. La religion, Dieu. Et Bergman a lutté avec ça toute sa vie. Hein, c'est le fils d'un pasteur.
I think the beauty of the film is really that you feel this
c'est véritablement que l'on sent ce chevalier qui passe par-dessus ou à travers tous ces événements. Et à la fin, il n'en sait toujours rien. Il y a cette scène où ils sont tous ensemble, il rejoint finalement sa femme, il rentre des croisades, il est parti 10 ans, il retourne à son château, sa femme est toujours là, tout le monde est parti ou mort en raison de la peste. Ils sont à table et puis on frappe à la porte et c'est la mort qui entre. Et qui les amène à quoi ? Et les seuls qui survivent, ce sont les jeunes qui s'en fichent et qui survivent parce qu'ils s'aiment. L'acteur, l'actrice et l'enfant qui sont dépeints comme les seuls qui valent la peine d'être vécus dans cette vie, plus importante que la philo, la théologie, c'est la procréation, l'évolution, et quel que soit qu'il ait voulu dire là. J'étais très impressionné par ça. Peut-être parce que c'est ma propre façon de réfléchir à la vie, plus négative que positive. Ben bon, c'est déjà très négatif comme ça.
C'est passionnant ce que dit Verhoeven,
parce Bonneau.
Que ça démontre que le cinéma est un art de la littéralité. C'est pas du tout un art de la parabole. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut y aller. Voilà. Par exemple, il présente Belle de Jour de Buñuel. Ce qui est incroyable dans Belle de Jour, c'est qu'une femme bourgeoise a des fantasmes. C'est Catherine Deneuve. Elle a l'air lisse, belle, proprette. Elle est mariée à un jeune médecin qui est parfait. Et ses fantasmes, c'est d'aller se prostituer, d'aller se souiller, se rouler dans la fange, dans un bordel l'après-midi. Un cinéaste comme Buñuel, il va pas trouver des paraboles ou des trucs cachés. Il y va. Il faut arriver à représenter ça, à montrer ça. C'est ça toute la difficulté du cinéma. Quand Verhoeven parle de Bergman, en l'écoutant, je me dis, mais c'est incroyable. Vous imaginez le scénario de Bergman, la mort frappe à la porte et entre. Mais voilà, vous dites ça dans un roman. Oui. Ok, pas de problème, une pièce de théâtre, naturellement. Oui. Mais au cinéma.
Et à une table de producteurs.
Mais au cinéma, et on donne ça à un producteur. La mort frappe à la porte et entre. Comme Buñuel a dû écrire après le livre de Kessel, parce que Belle de Jour est tiré d'un roman de Kessel. Catherine Deneuve, on va lui envoyer de la boue dessus. Elle va être en robe blanche dans un champ en Camargue et elle va imaginer qu'il y a deux rustres qui vont prendre des poignées de boue, des poignées de merde, et lui envoyer à la gueule. Et c'est exactement ce qu'il filme, en plein soleil, en plein jour, sans filtre, sans flou, sans faire d'effet, cash, comme diraient les jeunes, littéral. Et c'est ça le grand cinéma, et ça ne m'étonne pas que Verhoeven aime ces cinéastes-là.
Paul Verhoeven.
And basically that I just did something that might be the closest I ever came to Buñuel, which is the
en fait,
movie
je fais quelque chose qui me rapproche de Buñuel. C'est le film que je fais avec Isabelle Huppert qui s'appelle Elle.
D'après un scénario de Philippe Dian.
Un roman de Philippe.
Oui. Un roman, pardon.
Oh, qui d'ailleurs a dû donner lieu à des enchères que j'imagine sanglantes, hein, parce que c'est un des plus grands succès de librairie de Philippe Dian, vraiment un best-seller. Et on savait en le lisant, moi je l'ai lu à sa sortie, parce que j'aime beaucoup Dian, on savait en le lisant que ça allait faire un film formidable. Donc maintenant, qui allait le faire? Eh ben la bonne nouvelle, c'est que c'est Paul Verhoeven qui le fait.
D'un mot, Paul Verhoeven, à l'instant, Frédéric Bonneau vante votre talent, votre littéralité. Ça me fait penser à une phrase que vous avez pu dire pour décrire Volkers dans l'un de vos premiers films, Turkish Delight. Vous dites de ce personnage, il fait partie de ces gens qui montrent les choses telles qu'elles sont. C'est cela que vous avez poursuivi toute votre vie ?
Oui, mais... It's because of the Dutch culture, I think. You know, we you
c'est
talked
raison
about
de la culture,
in the beginning
on a parlé.
Bosch, basically, is the peeing against the wall of the bordello.
En fait,
but you wouldn't see in a French painting.
On a parlé de Jérôme Bosch et du type qui pisse à la porte du bordel. On ne verrait pas dans un tableau français de l'époque.
That's kind of. Je crois que. Basically, many etchings and.
Il y a aussi beaucoup de dessins, de gravures, de Rembrandt,
of sex.
De sexe, de personnes au lit qui font l'amour, ou de femmes qui pissent, ou Rembrandt l'a dessiné, il l'a observé, il l'a vraiment dessiné. Je pense pas qu'on puisse trouver ça ailleurs au XVIIe siècle. Et être un enfant de cet héritage hollandais qui met l'accent sur tout ce que nous donne la vie. Je crois qu'il est normal, si on est éduqué avec cela dans le contexte, on n'est pas né réaliste, mais les 20 premières années de votre vie, vous devenez réaliste. Et vous regardez tous les aspects de la vie, même les aspects les plus sombres, les plus mauvais, entre guillemets. C'est toujours important qu'il y ait une représentation de cela dans l'art.
Ping-pong. La culture sans limite.
Émilie, vous êtes de retour pour le disque du jour, mais alors est-ce que c'est une poignée de boue que vous avez lancée sur les oreilles des auditrices, des auditeurs?
Montrez-nous,
ou alors
on peut faire ça comme ça si vous voulez, je ne m'étais pas préparée, mais on peut faire ça comme ça. En tout cas, moi, ce disque du jour, vous allez me dire, Martin et Mathilde, et vous aussi, nos invités, ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a fait prendre un sacré coup de vieux, parce que c'est Skunk Anansie qu'on...
Ah oui,
bah, oui un nom qu'on voyait dans les clips de la fin des années 90, que moi, personnellement, il m'est arrivé d'écouter dans ma chambre d'adolescente.
On parle des années MTV, là. Ouais.
Des années MTV, exactement. Et même des années Sex Intention, puisqu'ils ont participé à la bande originale. Un groupe donc à la pop torturée, aux accents heavy metal, mené par la chanteuse Skin, qui porte bien son nom, reconnaissable à sa silhouette filiforme et à son crâne rasé notamment. Et ils présenteront leur nouvel album, An Architecture, au Trianon, à Paris, la semaine prochaine. Donc, c'est un disque qu'on présente en partenariat avec le Figaroscope, et qui sortira, le Figaroscope qui sortira demain. L'album, lui, est sorti déjà il y a un petit moment, avec un dossier spécial sur les nouveaux visages des régions. Donc on écoute tout de suite le titre That Sinking Feeling de Skunk Anansie.
We'll be right back.
That Sinking Feeling, donc issu du tout dernier album de Skunk Anansi, Anarchitecture, sorti chez Bogoyama. Et ils seront donc en concert le 10 février prochain au Trianon à Paris.
Merci Émilie pour ce disque du jour qui nous donne un peu de l'électricité qu'il y a dans les films de Paul Verhoeven et qui fait danser notamment ses showgirls. On vous retrouve demain pour un nouveau journal de la culture et un nouveau disque du jour.
Ping pong. Et c'est déjà fini.
Merci mille et une fois à tous deux, Paul Verhoeven, Frédéric Bonneau. Frédéric Bonneau, vous êtes donc intronisé nouveau directeur de la Cinémathèque française. Et à ce titre, vous aurez l'honneur, le plaisir, le bonheur d'accueillir toutes les spectatrices et les spectateurs venus à la rencontre de toute la mémoire du monde, ce festival international du film restauré qui démarre demain jusqu'à dimanche, donc à la Cinémathèque française, mais aussi dans 5 cinémas d'art et essai à Paris. Merci encore Paul Verhoeven, puisque vous êtes aussi, je le rappelle, l'invité d'honneur de ce festival Toute la mémoire du monde. Vous donnerez une masterclass, une nuit spéciale, et puis on parlait chemin faisant, un chemin de croix de votre Jésus de Nazareth aux forges de Vulcain.
Le ping-pong est une séance radiophonique qui s'organise en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction, Aïssatou Ndoye, Hélène Dely et Selena Terret. À la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau. À l'interprétation simultanée, bravo Michel Zlotowski. À la prise de son, Emmanuel Morse-Duncan et Thibaut Germez.
Mais quid de notre beau lendemain, Mathilde ?
Demain, il sera question du clown chocolat, le livre, le film, l'expo, le documentaire. Attention à la crise de foi, me direz-vous. Mais avec le travail d'historien de Gérard Noiriel et la fiction politique de Sabri Louata, on interrogera davantage notre aujourd'hui.